Pendant une heure, je vous invite à plonger dans l'univers biographique et documentaire à travers le portrait d'une femme d'exception. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. Première femme jamais portée à la tête d'un pays musulman, elle disait « Je n'ai pas choisi cette vie, c'est elle qui m'a choisie. Je suis née au Pakistan et ma vie est le reflet des turbulences, des tragédies et des triomphes de mon pays. » Aujourd'hui, Françoise Esteb et Anne Sécheret vous proposent Benazir Bhutto, 1953-2007, c'est toute une vie de pouvoir et de passion politique.
C'était vraiment, c'était une apparition, je me souviens, on était à Murree, c'est une station dans l'Himalaya, à une soixantaine de kilomètres d'Islamabad. Il y avait des millions de gens qui l'attendaient, c'était juste avant sa reconquête du pouvoir. Et c'était une journée de mousson, donc une journée avec un ciel noir très bas. Et lorsque Benazir est arrivé, la pluie s'est abattue vraiment sur toute la foule. Vous savez, des pluies vraiment violentes, comme il peut y en avoir dans ces pays. Et je voyais les gens qui glissaient des toits. Mais c'était hallucinant, on voyait les gens tomber comme des mouches qui glissaient de ces toits. Et Benazir qui était abrité par un parapluie que lui tenait une personne à côté d'elle, a poussé le parapluie du bras en disant « Laissez-moi me fondre, me joindre à la foule, je suis comme vous, je suis votre sœur. » Alors là, il y a eu vraiment un grondement d'admiration, les gens étaient en larmes, en pleurs, « Benazir, notre sœur, il faut revenir au pouvoir. » Enfin, elle savait parler au peuple, elle savait trouver les mots, elle savait se rendre émouvante et elle était magnifique. Elle était d'une beauté, on la sentait vraiment portée par, galvanisée, voilà, par son rôle.
1988. Une première dans le monde islamique, une femme aux commandes d'un pays musulman. Il s'agit du Pakistan. Benazir Bhutto vient d'être nommée Premier ministre. Elle va donc pouvoir constituer son gouvernement après la victoire du PPP, le Parti populaire pakistanais, aux élections législatives. Benazir Bhutto a 35 ans. Elle s'est très rapidement fait un prénom, car le nom est connu déjà. C'est en effet la fille d'Ali Bhutto, renversée en 77 et exécutée 2 ans plus tard.
J'avais le choix de garder le silence et de laisser faire, ou bien de dénoncer le mal et d'essayer de sauver mon pays. J'ai fait le second choix.
C'est ce qui m'a fascinée, parce qu'arriver dans un pays où les femmes sont encore aujourd'hui vendues au poids,
Laurence Gouret,
où elles sont enterrées vivantes, voir à la tête de l'État une femme, ça me semblait mais inconcevable. Donc j'ai essayé de comprendre de quelle façon elle avait pu se hisser à ce rang et devenir Premier ministre dans un tel pays.
Benazir Bhutto s'inscrit dans la lignée d'une riche famille de propriétaires terriens, d'une dynastie politique. Alors, si Benazir n'avait pas porté le nom de Bhutto, aurait-elle pu accéder au pouvoir, Christophe Jaffrelot ?
Sans doute pas. Nous sommes dans un sous-continent, l'Asie du Sud, où lorsque les filles, ou lorsque des personnes de genre féminin accèdent au pouvoir, c'est qu'elles sont ou des veuves ou des filles. Et dans le cas de Benazir, il est évident que c'est le nom de Zulfikar Ali Bhutto qui lui a tracé la voie vers le pouvoir.
Donc son père,
qui est effectivement un fondateur de lignée, un homme d'une personnalité tout à fait exceptionnelle, très gros travailleur, ayant suivi des études aux États-Unis avec brio, ayant pris le pouvoir d'une façon à la fois opportuniste et, on peut le dire, volontariste. C'est le premier à se proclamer socialiste contre les militaires dans les années 60-70. Et donc, il a vraiment marqué un tournant dans la politique pakistanaise, de sorte que son parti reste le premier parti, quelles que soient les élections, quelle que soit la période. Il a construit quelque chose et sa lignée en profite aujourd'hui.
Et quel était le mot d'ordre du parti de Zulfikar Bhutto, le PPP, le parti du peuple pakistanais ?
Un mot d'ordre très ambigu, puisqu'il s'agissait à la fois de créer le socialisme islamique, les deux termes sont un peu parfois compliqués à marier, et la grandeur de la nation pakistanaise, tout en se rapprochant de la Chine plus que des États-Unis. Mais c'est surtout le premier terme, hein. Socialisme islamique, ça voulait dire à la fois fidélité à une culture, à une identité nationale, et puis plus d'égalité, alors même que l'homme est l'héritier d'une lignée de propriétaires fonciers absolument sans équivalent. Enfin, on dit que il n'y a qu'une famille qui a plus de terres que les Bhutto dans le Sindh, quand on sait la taille des superficies de ces propriétés.
C'est-à-dire
ce sont des milliers d'hectares avec des paysans, là aussi par légion, pas payés ou très peu payés. Le Sindh reste l'une des provinces les plus en retard de ce point de vue-là. Dans le Sindh, on est encore avec une aristocratie d'un autre âge. Et il en est parfaitement le représentant. Et de fait, une fois au pouvoir, il ne fera pas la réforme agraire qu'il a promise. Il sera d'un conservatisme social qui était un peu annoncé par sa référence à l'islam.
D'ailleurs, ça m'avait assez choqué, même dans les années 90, lorsque j'allais dans ses propriétés dans le Sindh, on voyait des paysans se jeter aux pieds du seigneur et de lui baiser les pieds, par exemple.
La famille de Benazir Bhutto,
Emmanuel Pierre,
elle fait partie de ces gens qui ont eu le droit, sous le règne du Britannique, de continuer à s'occuper de leurs terres et de leurs gens, c'est-à-dire de leurs serfs, comme ils l'ont toujours fait, sans que le colonisateur ne s'en mêle.
Mais comment vivaient ces grandes familles du Sud ?
Dans leur propriété de l'Arcana, ils avaient un palais, littéralement. Et c'est là d'ailleurs que tous sont enterrés, puisque Zulfikar a perdu ses deux fils, non pas de son vivant, mais après qu'il soit mort lui-même. Donc toute la famille, ainsi que sa femme, qui est d'origine iranienne, sont enterrés là. C'est un mausolée dans un grand domaine, immense domaine, où on mélange aussi facilement le religieux et le politique, en un sens, puisqu'ils ont un pouvoir sur les hommes, évidemment, mais ils sont aussi les parrains, les patrons, en tout cas, des grands pires, de ceux qui sont les intermédiaires entre les hommes et Dieu. Et dans le Sindh, l'importance, l'influence de ces religieux est très, très importante. C'est une forme de soufisme sud-asiatique. Sachant, dans le cas des Bhutto, que l'ambiguïté demeure quant à leur affiliation religieuse. Il est fort probable qu'ils soient chiites, en vérité.
Si on prend plutôt ce qu'on appellerait le Raj britannique, pour parler comme du temps des colonies, donc l'empire indien britannique en quelque sorte, on s'aperçoit que finalement, dans cette zone géographique, il y a Benazir Bhutto au Pakistan, mais il y a aussi la Begum Zia par exemple au Bangladesh, l'ex-Pakistan oriental. La Begum Zia, elle arrive au pouvoir dans des conditions, on va dire, un petit peu similaires à Benazir Bhutto, et ça sera un des points importants, selon moi, dans le personnage de Benazir Bhutto. Elle arrive à la suite d'un drame, et après avoir perdu son mari assassiné. On trouve également, par exemple, Chandrika, qui devient au Sri Lanka Premier ministre, et puis ensuite présidente, et elle aussi vient d'une famille politique endeuillie, donc où elle prend en quelque sorte la relève. Et puis au centre, il y a cette immense figure qui est celle d'Indira Gandhi. Donc quand on regarde Benazir Bhutto en la comparant avec l'Inde, le Bangladesh, le Sri Lanka, et même si on pousse la métaphore très loin en prenant Aung San Suu Kyi en Birmanie pour englober tout ce qu'était le Raj britannique, on s'aperçoit que finalement, il y a une possibilité pour des femmes d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État ou aux plus hautes fonctions de direction politique à deux conditions. Qu'elles soient issues, on va dire, d'une famille où il y a la politique, en quelque sorte, comme bien familial.
Une dynastie,
C'est une dynastie, c'est une façon dynastique d'accéder au pouvoir, parce que la politique est considérée, on va dire, comme une sorte d'activité lucrative, professionnelle, commerciale, et qui appartient à une famille. Et donc, quand cette famille est endeuillée, et quand il se passe un drame, et que précipitamment, celui qui s'occupait, qui occupait la fonction, en est démis, parce qu'il est assassiné, immédiatement, celle qui est appelée à prendre la relève, elle le fait comme si elle dirigeait la ferme, comme si elle dirigeait la propriété de famille, comme si d'un seul coup elle devait gérer, en quelque sorte, être intendante, régente, pendant quelque temps, avant de passer, en quelque sorte, la main. Si on reprend tout ça en plus en l'inscrivant dans un cadre géopolitique plus global, qui est quand même le fait que tous ces pays ont été donc dominés par l'Empire britannique, ont été colonisés par l'Empire britannique, et donc cette longue période de colonisation, il y a quand même la figure la plus marquante, ça reste celle de la reine Victoria.
J'ai toujours détesté la politique. Mon père était un homme politique, il n'était jamais à la maison. Il recevait des menaces de mort, et je me revois petite fille, lui disant au revoir sur le pas de la porte.
Donc elle a vécu tout d'abord une jeunesse extrêmement privilégiée.
Très privilégiée, avec une éducation à l'occidentale. Très jeune, elle est allée dans un collège de sœurs à Mary. Et à l'âge de 15 ans, elle a poursuivi ses études en Occident. Elle est partie d'abord aux États-Unis, ensuite à Oxford. D'abord Harvard et Oxford.
C'est Imran Khan, le grand joueur de cricket, qui est aujourd'hui un candidat pour le poste de président du Pakistan, qui raconte comment lui-même étudiant à Oxford la voyait fonctionner, créant un syndicat étudiant qui représentait les Pakistanais du lieu, Oxford-Cambridge, Cambridge surtout.
Donc elle a eu la chance, et je crois que c'était vraiment une rupture par rapport à la tradition familiale chez les Bhutto, grands féodaux du Sindh, de pouvoir faire des études et d'avoir cette ouverture à l'international. En général, les jeunes femmes Bhutto étaient peu éduquées, portaient la burqa, vivaient recluses vraiment dans leur propriété et n'avaient guère de chance de pouvoir avoir une vie vraiment d'occidentale.
Benazir Bhutto était l'enfant chéri de son père.
Tout à fait, et Ali Bhutto était un homme intelligent. Il a très vite compris, probablement que Benazir était la plus douée de la fratrie, quel serait son successeur.
Et donc, elle a tout de suite manifesté un sens de son ascendance, en quelque sorte, et de son pédigré. Et de fait, elle va se retrouver dans le siège de son père, puisque lorsque Zulfikar Ali Bhutto ira signer la paix avec les Indiens à Shimla en 72, elle est là, elle est de la négociation, elle apprend le pouvoir comme Indira Gandhi a appris le pouvoir auprès de Nehru. Ce sont des aînés, dans le cas d'Indira, c'était le seul enfant, qui vont être désignés, presque de par leur date de naissance, pour prendre le relais.
Benazir Bhutto fait donc ses études aux États-Unis, puis à Londres, et elle rentre en 1976. Et alors vous écrivez, Laurence Gouret, que c'est le début pour elle du cauchemar. Alors jusque-là, elle a mené une vie extrêmement privilégiée, c'était une femme assez libre.
Oui, c'était une femme tout à fait libre, comme toutes les étudiantes de l'époque qui adoraient John Baez, Bob Dylan, qui avait une vie un peu insouciante. Et après l'arrestation de son père, effectivement, en 77, elle a acquis une maturité, je veux dire, accélérée. C'est-à-dire qu'elle est rentrée au pays, elle a commencé à se battre avec sa mère, d'abord pour essayer de faire libérer son père.
Et quand Zulfikar Ali Bhutto sera emprisonné, et ça va durer longtemps, avant qu'il ne soit exécuté, de 77 à 79, ils se verront souvent et il la désigne, sachant qu'il dit à ses deux fils de partir, eux, en Afghanistan pour continuer la résistance depuis l'étranger. Mais elle, c'est avec sa mère, celle qui va rester sur place, qui va être en résidence surveillée, puisque Zia, après avoir pris le pouvoir et après avoir emprisonné son père, mais et la mère et la fille en résidence surveillée, et jusqu'à l'exécution, ils vont être là, à tout essayer, à tout faire pour le sauver, sans succès. Remant ciel et terre, littéralement. Et donc elle va vivre, elle, le martyre de son père, bien plus directement que ses frères, et surtout elle va, du fait de ce lien, en être l'héritière. Et donc auréolée de cette image de martyr.
Je n'ai eu qu'une demi-heure pour dire au revoir à mon père. Il m'a dit alors, tu es si jeune, je n'ai pas le droit de sacrifier ta vie. Moi, j'ai choisi ma vie. J'étais tellement triste, et encore maintenant.
La veille de la pendaison de son père, Benazir a été la dernière personne à le rencontrer. Ils ont eu un échange extrêmement émouvant. Et elle me l'a raconté, elle avait les larmes aux yeux. Il lui a dit qu'il fallait qu'elle soit courageuse, bien entendu, et qu'il allait retourner sur la terre de ses ancêtres, mais qu'il risquait d'avoir très chaud. Vous voyez, il a même eu un trait d'humour à quelques heures de son exécution.
4 avril 1979.
Ali Buteau a été exécuté cette nuit à Rawalpindi. Après une année passée dans la cellule des condamnés à mort, l'ancien premier ministre pakistanais a été pendu. Tout cela sans véritable procès, c'est du moins l'avis de son avocat français, Maître Badinter.
On n'a pas, pour juger Buteau, réuni un tribunal d'exception. On n'a pas fait un procès politique, parce qu'on ne pouvait pas. On a monté un procès de droit commun pour se débarrasser d'un homme politique de première grandeur, dont on n'arrivait pas à liquider l'influence autrement. C'est une création nouvelle, c'est la liquidation physique d'un adversaire politique par un procès de droit commun construit de toutes pièces.
Malgré les calmants que m'avait donné ma mère pour essayer de passer cette nuit d'agonie, je m'assis brusquement, toute droite dans mon lit, à 2 heures du matin, sentant la corde de mon père se nouer autour de mon cou.
Pakistan, la journée d'action de l'opposition réprimée par le gouvernement du général Zia, 5 morts lors d'émeutes, des milliers d'arrestations, dont celle de la principale dirigeante de l'opposition, mademoiselle Benazir Buteau.
C'était épouvantable parce que Zia, le général Zia, s'est déchaîné sur Benazir et sur sa mère. Elle a été emprisonnée, elle était assignée à résidence surveillée. Et ça n'est qu'au début des années 80 qu'elle a pu partir en exil à Londres sous la pression des Américains.
Et elle a été maltraitée ?
Elle était maltraitée, absolument. Elle était peu soignée, elle souffrait de maux d'oreilles, on ne la laissait pas se soigner, elle était très peu nourrie, c'était des conditions sanitaires épouvantables. Elle a véritablement souffert dans sa chair et psychologiquement, bien sûr, dans ces années-là. Oui, c'était affreux.
Vous écrivez qu'elle a été violée en prison.
C'est ce qu'elle raconte, c'est ce qu'elle a dit, effectivement, qu'il y a eu même des atteintes physiques très violentes.
La chaleur atteignit Soukhour en mai, une chaleur sèche et brûlante qui fit de ma cellule un four. À travers les acclairvois, les vents soufflaient sans cesse, chauffés à plus de 40 degrés dans le désert tout proche du Sind intérieur. Une perpétuelle tempête de sable tourbillonnait autour de moi et j'étais souvent enduite de poussière collée par la sueur. La peau de mes mains se gerçait et pelait par plaques. Les boutons se multipliaient sur mon visage et la sueur me brûlait comme un acide. Mes cheveux, qui avaient toujours été épais, commençaient à tomber par poignées. Les insectes rampaient partout, tels des armées d'envahisseurs, sauterelles, moustiques, mouches agressives, abeilles. Ils arrivaient par les fentes du sol, entre les barreaux de la cour. Grosses fourmis noires, cafards, colonies grouillantes de petites fourmis rouges, araignées.
Zia l'envoie à l'étranger, elle est... Expulsée, elle va à partir de là naviguer entre Dubaï et Londres, surtout Londres d'ailleurs. Ce sera d'ailleurs ensuite un peu sa vie. Quand elle est au pouvoir, elle est évidemment au sommet de la gloire et du pouvoir et de la puissance. Et quand elle est dans l'opposition, elle est très souvent à l'étranger et c'est Dubaï et Londres, ses bases de repli.
Et en 1985, alors... Il y a un nouveau drame dans la vie des Buteau, c'est l'assassinat du plus jeune frère qui est retrouvé de façon tout à fait mystérieuse, empoisonné à Cannes.
Exactement.
Et alors ça, on a aucune piste.
Écoutez, c'est resté vraiment dans une espèce de nébuleuse. On n'a jamais vraiment élucidé cette affaire.
Laurence Gouret.
On pense qu'il s'agit peut-être d'une affaire de drogue, qu'il était peut-être impliqué. On ne sait pas. À l'époque... Il était marié avec une Afghane. On pense qu'elle a peut-être aussi été impliquée dans cette affaire. Enfin, c'est resté très, très flou. Mais le fait est que ça a été un choc terrible pour Benazir, qui adorait ce jeune frère et qui est rentrée dans son pays, assister aux obsèques. Et d'ailleurs, à cette époque, elle s'est posé la question, elle s'est dit, est-ce que je ne lâche pas tout? Est-ce que vraiment je n'abandonne pas toute cette politique? Elle était tellement touchée qu'elle a songé vraiment à abandonner sa carrière politique à cette époque-là, en 1985.
Mais en même temps, au moment des funérailles, elle a été acclamée par la foule et... Là aussi, il y a eu un revirement, enfin une forme d'illumination tout à coup.
Oui, tout à fait. Donc elle m'a raconté qu'en arrivant à Lahore, il y avait des millions de personnes qui l'attendaient, qui clamaient Benazir, notre sœur Benazir est de retour pour nous sauver. Et là, elle s'est sentie vraiment investie d'une mission et elle s'est dit, bon, il faut continuer, je crois que je n'ai pas le choix.
Effectivement, Benazir Bhutto s'est sentie investie d'une mission à la mort de son père, donc elle a hérité de la dynastie familiale, mais encore fallait-il qu'elle soit élue.
C'est véritablement une bataille électorale. Mais dans cette bataille électorale, on a des chances de gagner parce qu'on a un nom magique et qu'on est quasiment dans la croyance de la réincarnation. Nous sommes dans une zone du monde où les frontières entre l'islam, l'hindouisme, le christianisme sont un peu plus brouillés en pratique. En réalité, ces gens vivaient beaucoup plus en mixité religieuse et on retrouve, par exemple, dans les lieux de culte, dans les mosquées, dans des temples hindous, cette graduation sociale de caste. Et finalement, vous apercevez qu'on considère que, pour la famille Bhutto, un de leurs précarés, c'est la politique. Donc, il est naturel que quand vous portez les noms, et les noms sont gardés à chaque fois, c'est très 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 intéressant parce que ces femmes s'emparent, on va dire, à part Indira Gandhi, qui prendra le nom de son mari, mais ces femmes s'emparent, en quelque sorte, du nom qui est devenu magique de celui qui a disparu, comme une marque. C'est une marque de fabrique qui appartient à la famille. À partir du moment où elles ont la marque, elles ont l'estampille, c'est comme si elles étaient investies par le Parti républicain ou par le Parti démocrate, elles sont bonnes pour le combat et bonnes pour aller au dernier tour de l'élection.
1988.
Une première dans le monde islamique, une femme aux commandes d'un pays musulman. Il s'agit du Pakistan. Benazir Bhutto vient d'être nommée Premier ministre. Elle va donc pouvoir constituer son gouvernement après la victoire du PPP, le Parti populaire pakistanais, aux élections législatives. Benazir Bhutto a 35 ans. Elle s'est très rapidement fait un prénom, car le nom est connu déjà. C'est en effet la fille d'Ali Bhutto, renversée en 77 et exécutée 2 ans plus tard.
Je me souviens quand je me suis avancée dans le palais présidentiel avec les tapis rouges, les chandeliers, les militaires enturbannés au garde à vous. Je me souviens qu'en entrant dans mon bureau, j'ai eu un sentiment de triomphe en pensant à tous ceux qui étaient morts pour ramener la démocratie au Pakistan.
Les médias ont adoré l'idée qu'une femme,
Emmanuel Pierre,
puisse d'un seul coup accéder au pouvoir par les urnes, légitimement, démocratiquement, et soit si belle et si magnifique, s'exprime si parfaitement en anglais, soit aussi polyglotte, soit aussi occidentale en quelque sorte. Finalement, on est un peu rassuré d'un seul coup de voir que c'est une femme qui parle notre langue parfaitement, sans accent, qui connaît tous les codes de la vie occidentale qui s'exprime, et non pas un barbu iranien enturbanné qui refuse de s'exprimer autrement qu'en persan.
Le sous-titre de l'autobiographie de Benazir Bhutto, fille de l'Orient, est « Une vie pour la démocratie ». C'est le terme démocratie qui revient le plus souvent dans son livre.
Oui, c'est le terme qui revient le plus souvent, mais c'est une démocratie à la pakistanaise.
Gilles Cohen-Solal.
Et elle voudrait en fait amener ce pays, cette forme d'obscurantisme, vers la démocratie. C'est, en fait, c'est ce qui tend son action et sa réflexion, c'est de passer du système clanique dont elle est issue, et qu'elle revendique par ailleurs, à un système qui serait plus de représentation nationale, tout en ménageant, on voit bien à quel point dans la politique de ces pays, c'est extraordinairement compliqué, mais tout en allant vers plus de démocratie.
En 1988, c'est le premier mandat de Benazir Bhutto. Alors, comment va-t-elle se comporter au gouvernement ?
Elle est revenue peu de temps auparavant, enfin en 86, et elle a pu mobiliser sur son nom le parti de son père, en bénéficiant du dévouement inimaginable de ceux qui ont le souvenir de Zulfikar Bhutto en tête.
Christophe Jaffrelot.
Et là, il y a une spécificité. Le PPP est un parti de cadres dévoués, gardant au père Bhutto une admiration sans faille. Et la première des mauvaises manières qu'on peut lui reprocher, c'est précisément de ne pas permettre à ces hommes qui sont vraiment dévoués pour elle de participer du pouvoir. Elle va être tacticienne en diable, opportuniste en diable, faisant monter en ligne de nouveaux cadres, notamment ceux qui viennent dans l'orbite de son mari, Asif Zardari, avec lequel elle vient de se marier et qui est une sorte de playboy fait beaucoup dans les affaires, toutes sortes d'affaires. On va l'appeler assez rapidement Monsieur 10% quand il viendra, pas très très longtemps ensuite, ministre des investissements. Et elle tombe sous sa coupe au point de ne pas donner à ceux qui avaient fait le parti et fait sa victoire la place qu'ils auraient dû.
En 1988, Benazir Bhutto est donc élu. Elle remporte les élections avec une marge de manœuvre tout de même assez faible. Mais alors, sur qui s'appuie-t-elle pour gouverner ?
Elle est obligée de faire des alliances avec d'autres partis politiques. Elle est obligée de faire profil bas avec le président Issa Khan, qui était en fait très proche du général Zia, donc un ennemi de son père, qui la déteste.
Le chant du sabre et du sang, un ouvrage de Fatima Bhutto, la nièce de Benazir. Fragment cité par sa traductrice, Sophie Bastide-Fols.
Entre la Benazir d'avant le pouvoir et celle d'après, il y a un gouffre que rien n'explique. Dans ses discours, elle ne parlait que de démocratie, partage, justice. Dans la réalité, elle a détourné des millions. Vous savez, c'est une femme très très complexe, Benazir, mais elle aimait le pouvoir, et pour le garder, ce pouvoir, elle a commencé par mettre un voile, ce qui était pour la famille Bhutto absolument impensable. Elle a voulu plaire à beaucoup de monde, disons. Et j'ai là une déclaration d'un historien, William Dalrymple, dans le Financial Times, qui dit « Les instincts politiques de cette femme corrompue étaient pourtant plus autocratiques que démocratiques ». Et il ressort de beaucoup de témoignages que Benazir elle-même aimait énormément l'argent et qu'elle était extrêmement fortunée. Elle a été d'ailleurs accusée de corruption et même...
D'émise à cause de
oui,
ça.
Oui, absolument, pour cette raison. Donc je crois que c'était le couple, quoi. Le couple était corrompu, il n'y a aucun doute là-dessus.
Fatima Bhutto, tout de même, est très sévère vis-à-vis du mari de sa tante. Elle le présente ainsi, le mari visqueux de ma tante.
Ah oui, elle ne l'a jamais aimé. Et d'ailleurs, je pense que le moment où Fatima se détache de sa tante n'est pas tant le moment où son père est assassiné, mais déjà le moment où elle épouse Zardari. Elle ne supporte pas cet homme-là, elle ne supporte pas le fait que Benazir porte le voile. Elle dit, je voudrais vous citer cette phrase qu'elle a dite lors d'une interview, « Elle qui se prétendait démocrate et progressiste a entamé une procédure contre ma mère pour non-respect du deuil islamique. » Elle dit aussi que pour l'Occident, elle était progressiste, démocratique. Au Pakistan, c'était le contraire. Elle a été la première femme politique à se couvrir la tête. Elle a protégé le régime légal d'oppression des femmes. Son gouvernement a reconnu et aidé le régime des talibans en Afghanistan. Et elle était au cœur d'un terrible système de corruption. Voilà comment elle voyait sa tante.
Il y avait une gabegie au niveau de la politique, de l'utilisation des fonds, de même ses déplacements à l'étranger. Je veux dire, c'était incroyable. Lorsqu'elle partait à Davos, elle a frété des avions, elle partait avec coiffeur, manucure, tout ce que vous pouvez imaginer. Elle se déplaçait en limousine, alors que le premier ministre finlandais prenait le bus à Davos. Benazir était en... Bon, Donc on peut quand même s'interroger un peu sur l'utilisation des fonds dans un pays comme le Pakistan, où vous avez 70% de la population analphabète, où les gens meurent de faim.
Ça, c'est la première chose. Après, le grand problème de Benazir en 88, 89, 90, c'est finalement de ne pas avoir accès à de nombreux dossiers. Car les militaires, qui ne voulaient absolument pas d'elle, qui ont essayé de faire remonter en puissance l'opposition, gardent, se crispent sur des dossiers clés. Il y a trois dossiers majeurs à l'époque. Il y a le dossier afghan. La guerre n'est pas terminée en Afghanistan. Il y a le dossier indien tout court. C'est le début du djihad qui va en fait commencer en 89. Bon, une véritable insurrection anti-indienne au Cachemire. Et il y a troisièmement le dossier nucléaire, qui est un dossier majeur. C'est le moment, en tout cas nous sommes dans les années à coup sûr, où le Pakistan a la bombe. Et donc, il faut pouvoir monter en gamme, il faut pouvoir avoir les vecteurs, les missiles qui vont permettre de tirer. Mais elle le dira d'ailleurs très vite, je ne peux rien faire, je ne sais rien de ce qui se passe. Et lorsqu'elle va vouloir, alors, faire quelque chose, ce sera forcément en politique intérieure et non pas sur ces grands dossiers stratégiques. Et là, elle va être assez maladroite parce qu'elle va vouloir en particulier mettre son nez dans les affaires judiciaires. Et un grand enjeu dans la politique pakistanaise toujours, c'est qui nomme les juges, comment sont nommés les juges, puisque les juges sont le seul contre-pouvoir en vérité, plus ou moins efficace suivant les périodes. Et elle va vouloir s'immiscer dans ces affaires-là. Elle va vouloir deuxièmement s'occuper du problème Muhajir. C'est le moment à Karachi où les séparatistes Muhajir prennent le mort aux dents et donc deviennent violents. Et son action va être très mal perçue, très mal menée. Et donc très vite, en fait, en 18 mois, hein, elle va s'aliéner les militaires et le président, puisqu'elle est dans un système parlementaire, mais où le président a le pouvoir de démettre le Premier ministre. Et donc, elle va être démise de ses fonctions. En une vingtaine de mois, elle a dilapidé le capital de sympathie qu'elle avait pour commencer, et elle retourne dans l'opposition. Alors, à l'occasion d'élections en 90, qui sont des élections truquées, parce que là, cette fois-ci, les militaires ne laissent rien au hasard, et en particulier les services de renseignement militaire, l'ISI, l'IASI, qui, on le sait maintenant, ont truqué les élections pour permettre à son opposant de toujours, Nawaz Sharif, de revenir au pouvoir en 90.
Military rule is the cause.
La loi martiale est la cause de l'anarchie au Pakistan. La loi martiale n'est pas la solution. L'extrémisme mène à la dictature.
Extremism thrives under dictatorship.
6 août 1990.
Benazir Bhutto n'est donc plus le Premier ministre du Pakistan. Elle en a fait été démise de ses fonctions par le président Isaac Khan, qui en a profité pour dissoudre le Parlement et ordonner de nouvelles élections.
Les motifs invoqués, corruption, incapacité à tenir les rênes du pays, dissimulent mal le fait qu'une grande partie de l'armée et de la classe politique, souvent confondue au Pakistan, n'ont jamais accepté le pouvoir de cette jeune femme sur un grand pays islamique de plus de 100 millions d'habitants. En fait, le message et la volonté démocratique de Benazir avaient beaucoup de mal à s'imposer dans un pays en proie à la misère, l'analphabétisme et le fondamentalisme religieux.
We are prepared to risk our lives and we are prepared to risk our liberty, but we are not prepared to surrender our great nation.
Après, il y a un moment où les médias occidentaux ou les gouvernements occidentaux passaient des réjouissances en quelque sorte d'avoir la sensation finalement qu'une des nôtres a été élue à la tête de ce pays.
Emmanuel Pierra.
Il y a un moment quand même où on s'aperçoit que la ligne jaune est franchie, c'est-à-dire que d'un seul coup, elle se met à appliquer des méthodes vigoureuses, violentes, antidémocratiques, qui a des histoires d'argent. Et finalement, tout ce qu'on avait occulté pendant la campagne, pendant l'élection, même le moment de l'élection, les conditions qui ont permis à cette femme d'accéder au pouvoir finalement rejaillissent et on s'aperçoit qu'elles existent. On s'aperçoit qu'elle appartient à une grande famille, que cette famille a beaucoup d'intérêts, qu'il y a de l'argent, qu'il y a des liens politiques très nombreux, des pactes anciens qui ont été passés, des dettes à payer pour remplir en quelque sorte ce contrat et ce mandat qu'elle porte. On s'aperçoit que finalement, elle est obligée de prendre un certain nombre de décisions qui ne sont plus considérées alors comme des décisions démocratiques.
Le sous-titre de l'autobiographie de Benazir Bhutto, fille de l'Orient, est « Une vie pour la démocratie ». Vous avez choisi une photo pour la page de couverture, vous pouvez me la décrire?
C'est une femme belle,
Gilles Cohen Solal,
en train de se mettre ou de s'enlever un châle, on ne sait pas.
Un voile.
Mais est-ce que c'est un vrai voile ou est-ce que c'est un châle? Difficile à dire. Et ce qui m'a touché dans cette photo, c'est son partage entre le châle ou le voile du Pakistan et le fait qu'elle puisse l'enlever pour être occidentale. Donc pour moi, c'est une photo qui illustre la biculturalité de Benazir Bhutto.
Ou l'ambiguïté.
Ça va de même. C'est la même chose.
Aussi, il y a beaucoup dans le costume. Quand on regarde ces femmes, elles sont iconographiquement très très belles. Elles ont toutes une espèce d'allure de madone. Elles ressemblent donc à des Vierges Marie, à des madones. Elles sont habillées avec le drapé normal de leur propre confession ou appartenance, on va dire, religieuse. Mais elles l'utilisent pour donner l'impression comme ça qu'elles sont des espèces d'êtres supérieurs qui arrivent portées par une aura sacrée. Quand on regarde les images de Benazir Bhutto, quand on la voit parler à la foule, quand on la voit avoir des conversations, se promener, refaire des rencontres politiques officielles. Et quand on regarde d'ailleurs ses homologues, entre guillemets, encore une fois Indira Gandhi, la Begum Zia et Chandrika au Sri Lanka, elles ont une espèce de grâce et elles se comportent en sachant qu'elles ont cette espèce de grâce. Et elles jouent de la contrainte qu'est le voile ou le sari pour les autres, mais peu importe, c'est la même chose, puisque ça consiste à avoir des grands drapés et à devoir se les placer au-dessus de la tête en laissant, éventuellement, quand on est un peu libéral, ou quand on est une femme politique en action, avoir le droit simplement de laisser passer quelques mèches, ou quelques méchettes comme ça de cheveux. Et elles jouent énormément de ça. Elles ont la même attitude devant les photographes et devant les caméras que Lady Di à la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'elles ont conscience en permanence d'être belles et d'être porteuses d'un certain charisme.
Mais restant au Pakistan plusieurs années, je me suis rendu compte au fil du temps, finalement, que la madone avait peut-être également des zones d'ombre. Et c'est ce qui m'a intéressée dans ma démarche. C'est-à-dire suivre vraiment le personnage pour essayer de la comprendre sous toutes ses facettes.
Dans l'envers du voile, Laurence Gouret, vous posez tout de même une question radicale. Vous vous demandez si la sainte Benazir peut prendre parfois les traits d'une démone, d'une Kali musulmane.
Oui, effectivement, parce que dans la vie de Benazir, elle a eu des moments d'une extrême autorité, d'une grande cruauté. Elle a fait peu de choses finalement pour les femmes qui espéraient tant. Et les gens étaient très durs avec elle et vraiment la qualifiaient de dictateur quasiment. Notamment lors de son second mandat à partir de 1993. Tous ces hommes politiques qui avaient été d'une fidélité sans faille depuis Ali Bhutto n'ont pas compris qu'elle choisisse les ennemis de son père à des postes très importants. Alors il y a un exemple qui m'a complètement, que j'ai trouvé incroyable. Mustafa Khan est un des féodaux vraiment les plus épouvantables qui puissent exister au Pakistan. Il a pour épouse Tamina Durrani. Je ne sais pas si vous avez lu son ouvrage My Feudal Lord, où elle décrit justement tous les travers de ces féodaux, la violence, la corruption, et elle va le choisir comme ministre de l'énergie.
Alors ça, vous l'expliquez comment ?
Ben oui. Opportunisme, négociation. Elle avait des ministres mercenaires, qu'elle les achetait, qu'elle en avait besoin pour d'autres fins, probablement. Et elle s'est entourée de gens qui étaient tout à fait contre elle quelques années auparavant. Mais un autre exemple que j'ai trouvé incroyable aussi, qui faisait sourire tout le monde, son chargé de presse avait été le responsable de la communication de Nawaz Sharif. Et je me souviens, lors d'une campagne politique, d'hélicoptères, ils envoyaient des tracts de Benazir, un montage avec des photos de Playboy, voyez, sur les villages pakistanais. Et elle va choisir ce même homme pour s'occuper de sa communication.
Thank you. 1993-1996, c'est le second mandat de Benazir Bhutto. Alors quel en est le bilan, Christophe Jaffrelot ?
Alors le bilan de ce deuxième mandat est plus compliqué à faire parce que là on la voit mûrie par l'expérience, faire preuve de davantage de sagacité et mener une politique littéralement. En tout cas, être associé à une politique. Les militaires, en l'occurrence, sont moins puissants. Elle a une marge qui est plus grande. Et là, elle va mener, on peut dire, trois types d'actions. C'est elle qui va premièrement valider le choix des talibans pour prendre le pouvoir en Afghanistan. Avec raison, puisqu'eux, ils font tomber Kaboul en 96, et en 96, le pouvoir arrive dans une sorte d'orbite pakistanais. Donc ça, c'est une de sa première décision. Il y a une deuxième décision qui est tout à fait intéressante, c'est que les Pakistanais ont la bombe, mais ils n'ont pas les missiles, ils n'ont toujours pas les vecteurs. Il leur faut absolument de quoi transporter la charge nucléaire, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Les Nord-Coréens ont les missiles et aimeraient bien avoir la bombe. Et les Chinois s'entremettent, pour ce qu'on en sait. De sorte qu'elle va mener des pourparlers, et là on découvre une Benazir Bhutto quand même assez stupéfiante, elle va aller en Corée du Nord, elle va être impliquée d'une manière ou d'une autre dans cette espèce de troc qui veut que les Coréens du Nord auront des éléments qui permettent de faire la bombe et qu'en échange le Pakistan aura les vecteurs. De fait, aujourd'hui, les missiles pakistanais sont nord-coréens et anciennement d'origine chinoise. Donc là, on va l'avoir avoir une action, et en tout cas donner de sa personne. Et puis, alors ça, c'est la partie la plus sordide de ce deuxième mandat. Elle est tombée sous la coupe de Zardari d'une manière d'autant plus forte que son frère cadet, Murtaza, est revenu de Syrie et lui dispute la tête du parti. Il s'est fait élire dans la circonscription parentale, enfin paternelle. Il est l'héritier Bhutto et il dit le PPP s'est totalement discrédité. La preuve en est, Monsieur Zardari est une tache sur notre honneur. Zardari, Monsieur 10%, connu de tout le monde comme corrompu, est probablement à l'origine de l'assassinat de Murtaza Bhutto en 96.
Donc le frère de Benazir.
Le frère cadet. Et Benazir, on le voit sur les images de cette époque, porte la trace de la culpabilité. Elle est absolument inconsolable. Et d'ailleurs, la fille de Murtaza, lorsqu'elle téléphone à Benazir le soir de l'assassinat et veut en savoir plus, tombe sur une Benazir hystérique, enfin, qui ne prend même pas l'appareil, d'ailleurs c'est Zardari qui répond, mais le faisceau de présomption est très très fort pour en conclure qu'il n'y avait pas de place pour deux Bhutto dans le Pakistan des années 96-97. Et donc Murtaza a fait un martyr de plus dans la famille Bhutto.
Le chant du sabre et du sang est un récit de l'histoire tumultueuse et sanglante de la dynastie Bhutto. Alors, Sophie Bastide-Foltz, vous avez traduit cet ouvrage de Fatima Bhutto, qui était la nièce de Benazir Bhutto, c'est-à-dire qu'elle était la fille de Mir Murtaza Bhutto, qui a été assassinée en septembre 1996 à Karachi par la police pakistanaise, alors que Benazir Bhutto était Premier ministre. Donc c'est un assassinat assez trouble. Vous avez rencontré Fatima Bhutto, bien entendu, Sophie Bastide-Foltz. Alors, dans quel esprit a-t-elle écrit ce livre, qui est une charge contre Benazir Bhutto quand elle l'évoque ?
À aucun moment dans ce livre, on ne sent vraiment de haine vis-à-vis de sa tante, et même au contraire, Fatima adorait sa tante. Alors bien entendu, après la mort de son père, et surtout quand elle s'est rendue compte que Benazir n'avait absolument rien fait pour essayer d'éclaircir les circonstances de la mort du frère de Benazir, donc du père de Fatima, il y a eu évidemment une période où il y a eu beaucoup de colère, où il y a eu beaucoup de ressentiment de sa part, c'est sûr, d'autant plus qu'elle a fait quand même quelques recherches, évidemment, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Mais moi, je n'ai pas senti de haine. Donc Benazir n'y apparaît que de façon épisodique. Bien entendu, elle apparaît plus particulièrement pendant la période où elle est au pouvoir. Mais enfin, pour pouvoir garder le pouvoir, elle aurait manifestement fait un certain nombre de concessions, enfin jusqu'à ne rien faire contre, si ce n'est commandité, la mort de son frère. ce qui est tout de même une accusation très grave. Que Maître Vergès, qui a été l'avocat de la famille à une certaine époque, semblerait, non pas confirmer, mais disons sous-entendre. Mais je pense que, en dépit des apparences et surtout de l'image que nous avons de Benazir en Occident, une fois mariée à Zardari, elle s'est perdue en cours de route.
On a l'impression qu'elle est aveuglée. Alors, est-ce qu'elle est grisée par le pouvoir? Est-ce qu'elle est entraînée sur cette espèce de pente de corruption? Elle peut plus faire marche arrière. Est-ce qu'elle est forcée par son mari? Est-ce qu'elle est contrainte? On ne sait pas trop, mais en tout cas, elle glisse, et rien ne se fait plus dans le pays. Et le pays est en proie à une anarchie la plus totale. Sa mère était évincée, elle aussi, du parti.
Mais son mari était aussi extrêmement ambigu. Avec elle également, vous écrivez, Laurence Gouret, que Benazir Bhutto n'a pas pu échapper à la condition féodale, enfin des relations entre hommes et femmes.
Oui. C'était très pénible, et ça, j'avoue que ça m'a profondément attristée en tant que femme de la voir souffrir. J'ai su par ses amis proches qu'elle était très souvent en larmes, qu'il se conduisait mal, il était volage, il était violent. Donc malheureusement, elle a beaucoup souffert. Ce qui semble incroyable, de la voir aussi autoritaire dans sa vie politique, autocrate, et de la voir souffrir de cette façon dans la vie privée, c'est vraiment tout le paradoxe peut-être de la femme musulmane.
5 novembre 1996, Benazir Bhutto est destituée pour corruption et abus de pouvoir. Elle part pour un nouvel exil. Octobre 2007, Benazir Bhutto est de retour au Pakistan. Je suis très émue de revenir dans mon pays. J'ai rêvé de ce jour des mois et des années durant.
Les Bhutto, et c'était le cas de Zulfikar Ali Bhutto aussi, ont fait preuve d'une détermination seule capable de faire vaciller le pouvoir des militaires. On considère aujourd'hui qu'il n'y a que deux centres de pouvoir au Pakistan, l'armée et le PPP. Le PPP, c'est véritablement leur œuvre. Si Benazir a poursuivi une œuvre, c'est celle de son père à travers un parti, le parti du peuple pakistanais. Et cela, on ne lui en retirera pas.
On peut tout lui reprocher. On peut lui reprocher, on peut considérer qu'elle a été corrompue, manipulatrice, qu'elle a commandité tout un tas de choses pas particulièrement sympathiques, qu'elle a tapé dans la caisse, si je puis me permettre beaucoup d'expressions. Mais elle a eu un courage immense. Le courage de bataille électorale et de relève face à un opposant qui n'est pas seulement un opposant dans les urnes. C'est un opposant aussi, quand même, qui a tué les vôtres. Vous devez en permanence être capable d'affronter des séries d'attentats, des manifestations violentes, des cocktails Molotov et que sais-je encore. Et vous savez déjà que des gens ont été assassinés près de vous et que vous avez de bonnes chances de finir assassiné dans un attentat.
Il y a aussi dans cette histoire, franchement, une forme de destin. On les a comparés aux Borgia, aux Kennedy, aux Atrides, enfin que sais-je. Mais il y a tout de même quelque chose de l'ordre du destin dans cette histoire. Zulfikar Ali Bhutto, exécuté en 1979. Shahnawaz Bhutto, assassiné en 1985. Mir Murtaza Bhutto, assassiné en 1996.
Elle était porteuse d'une destinée. Finalement, on ne choisit pas sa vie quand on est descendante de Zulfikar Ali Bhutto. On va jusqu'au bout.
Benazir Bhutto, assassiné en 2007.
Elle aurait pu ne pas retourner au Pakistan et continuer une vie qui aurait été plus douce. Mais elle y est retournée, prenant ce risque inouï, qui d'ailleurs se matérialise dès qu'elle arrive à Karachi, puisque dès qu'elle arrive, il y a un attentat majeur qui fait plus de 100 morts. Et elle refait un meeting quelques semaines plus tard,
Le fait de continuer malgré un attentat qui a failli l'emporter, malgré etc., ça fait partie du destin en quelque sorte quasiment religieux de cette femme. La façon dont elle continue et dont elle pense, mais je pense qu'à chaque fois, Bénézère Buteau doit être confortée par le fait d'avoir échappé à l'attentat. Il y a cette espèce de superstition en quelque sorte qui fait que si on y est échappé, on y échappera. Et donc il y a un moment où je pense que ces personnages, avec une éducation extrêmement forte, une intelligence très très puissante, un cartésianisme en apparence extrêmement développé, finissent par mêler à leur façon de gouverner et de survivre en politique une part d'irrationalité.
Il est vrai que j'ai écrit au général Moucharaf. J'ai été informé par le général Moucharaf qu'un pays ami les avait alertés que je risquais d'être attaqué par le gang d'un seigneur de la guerre afghane, Bethullah Massoud, ou par Hamza bin Laden, le fils d'Oussama bin Laden, ou par les talibans pakistanais d'Islamabad, ou par un groupe de Karachi. Et j'ai désigné trois personnes qui, je pense, sont leurs sympathisants. Je sais que je peux me tromper et que mes soupçons peuvent être déplacés, mais ce sont des gens que je suspecte de vouloir stopper la restauration de la démocratie. Ils veulent empêcher mon retour car ils savent qu'en 1993, lorsque le Pakistan était sur le point d'être déclaré État terroriste, j'ai arrêté l'essor du terrorisme. Ils savent que je peux le refaire. Pour moi, ce sont les forces qui veulent non seulement m'empêcher, moi, mais également le processus démocratique et la volonté du peuple de triompher.
Elle a beaucoup de courage, d'autant plus qu'elle reçoit des lettres de menaces. Elle se sait menacée. Elle connaît ses assassins potentiels, des gens des services secrets, des hommes politiques. Elle communique même les noms à certains diplomates anglais, américains, à Moucharaf. Elle lui demande d'avoir une garde rapprochée qui viendrait de l'étranger pour vraiment la protéger. Tout ceci lui est refusé. L'Occident ne bouge pas. Et le 27 décembre 2007, Benazir est assassiné.
We are prepared to risk our lives and we are prepared to risk our liberty, but we are not prepared to surrender our great nation.
Elle faisait un de ses meetings politiques qu'elle adorait. Et à Rawalpindi, là même où son père a été exécuté, Benazir a été tué, en fait, d'une balle dans le cou. Et en même temps, il y a eu une personne, un kamikaze, s'est fait exploser devant la voiture pour essayer d'effacer la trace de la balle, pour qu'on ne comprenne pas qu'en fait, une personne l'a spécifiquement visée. Et elle s'est écroulée sur les genoux de sa secrétaire, une fidèle qu'il avait suivie tout au long de sa carrière, Nahid. Et elle s'est écroulée au moment où elle prononçait « longue vie au Buteau ».
Donc cet assassinat qu'elle pressentait et qu'elle a bravé, oui, oui, lui redonne son aura d'icône.
Ah oui, très honnêtement. Elle offre sa vie, voilà. Elle est sacrifiée sur l'autel de ses convictions, j'allais dire, mais c'est exactement ça. C'est une Antigone des temps modernes.
He was the main person who gave us the lesson, or teach us the lesson.
Elle était la seule personne à nous donner de la force et à nous montrer comment nous battre ensemble pour faire avancer le processus démocratique dans ce pays. À nous répéter que la Constitution protège nos droits. Mais nous n'avons pas eu de chance et les causes en sont multiples. Notamment et surtout ce régime militaire qui n'a jamais laissé ce pays se développer comme une nation démocratique. Madame Benazir Buteau a mené un long combat pour que la démocratie arrive dans ce pays. Mais par manque de chance et à cause de l'implication permanente de l'armée Dans nos institutions politiques, nous n'avons pas pu obtenir de résultats concrets.
On entend ici des manifestants crier ces derniers jours « La vie continue, Benazir est toujours là !»
Au nom des Buteau, trois jours après la mort de Benazir, c'est son fils qui reprend la main de la dynastie familiale. Bilawal, 19 ans, lui succède à la tête du Parti du peuple pakistanais. Et c'est lui qui emmènera le PPP aux législatives.
Benazir Buteau, une émission de Françoise Esteb et Anne Sécheret. Avec Sophie Bastide-Fols, traductrice du chant du sabre et du sang de Fatima Buteau aux éditions Buchet-Chastel, Gilles Cohen-Solal des éditions Héloïse d'Ormesson qui ont publié l'autobiographie de Benazir Buteau, fille de l'Orient, Laurence Gouret, journaliste internationale, auteur de Benazir l'envers du voile aux éditions de Noël, Christophe Jaffrelot, spécialiste du Pakistan, auteur de plusieurs ouvrages sur le Pakistan aux éditions Complexe, Fayard, Actes Sud, et Emmanuel Pierra, avocat, écrivain, éditeur. Avec la voix de Benazir Buteau, archive INA, prise de son Yves Lehorse, Benoît Gaspard, mixage Claude Niort.